Voici une question dont la réponse nous aidera à découvrir combien Dieu nous aime. Quelles sont les grandes vérités que le Cantique des Cantiques nous enseigne? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui vient du cœur de Dieu, aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Le Cantique des Cantiques. Un livre de la Bible qui a amené tant de discussions parmi les croyants et les non-croyants à travers les âges. J'ai bien hâte d'entendre ce que le Seigneur va nous enseigner à ce sujet aujourd'hui. Alors voici les questions qu'on va lui poser. Qu'est-ce que le Cantique des Cantiques illustre? Est-ce que le but du Cantique des Cantiques est de justifier le péché sexuel? Est-ce que ce livre nous encourage à rechercher le perfectionnement spirituel et le plaisir? Quelles sont les grandes vérités que le Cantique des Cantiques nous enseigne? Selon la Bible, en quoi consiste la vraie vie chrétienne? À qui s'adresse le Cantique des Cantiques? Demeurez à l'écoute, on est sur le point d'entendre tout un enseignement en réponse à chacune de nos questions par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, demandons à Dieu qu'il dispose nos cœurs pour qu'on saisisse le sens réel de ce beau livre de la Bible. Prions. Ô Seigneur, on sait que c'est toi qui as inspiré le Cantique des Cantiques, et on désire mieux le comprendre aujourd'hui, afin qu'il change nos vies, qu'il transforme nos vies. Dispose nos cœurs, Seigneur, pour qu'on comprenne bien ce que toi tu veux nous dire. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons terminé l'étude du livre de l'Ecclésiaste. Nous avons suivi Salomon dans sa quête pour le repos pour son âme. Il a exploré toutes les avenues que lui proposait le monde et rien n'a pu combler le vide de son âme. Après toutes ses recherches, il est arrivé à la conclusion que nous devons craindre Dieu et observer ses commandements. Le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu et faire sa volonté, c'est de croire en son Fils Jésus qu'il nous a envoyé. Le Cantique des Cantiques illustre l'amour de Jésus pour son Église. Aujourd'hui, nous débutons l'étude du Cantique des Cantiques, une belle chanson d'amour qui illustre la relation d'amour entre le Seigneur Jésus-Christ et son Église. Le premier verset du livre indique que Salomon est l'auteur du Cantique. Salomon a aussi rédigé le livre des Proverbes et celui de l'Ecclésiaste. L'Esprit a voulu que nous ayons les meilleurs écrits de Salomon. Le Cantique des Cantiques n'est pas une histoire, mais une chanson. Dans le premier livre des Rois, nous lisons, il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. 1 Rois chapitre 4 verset 32. Salomon a écrit 3000 proverbes, mais si nous comptons ceux qui se trouvent dans le livre des Proverbes et dans l'Ecclésiaste, nous remarquons que nous sommes loin du compte. Nous n'avons qu'une petite portion de ce que Salomon a écrit. Cependant, nous savons deux choses au sujet des proverbes qui se trouvent dans la Bible. Premièrement, nous avons les meilleurs proverbes de tous ceux que Salomon a composés. Et deuxièmement, nous avons ceux que l'Esprit de Dieu désire que nous ayons. Cette référence de 1 Rois chapitre 4 verset 32 nous dit aussi que Salomon a composé 1005 chants. Il était un auteur de chansons prolifiques. Notez que le texte biblique est très spécifique. Il est écrit qu'il a composé 1005 chants. Ce n'est donc pas un chiffre arrondi. Il est probable que ceux que nous avons encore, ce sont ces cinq chansons. Bien entendu, la plupart des chants de Salomon sont perdus. En fait, nous affirmons généralement qu'en avoir un seul. Cependant, le Cantique des Cantiques, appelé aussi le Cantique de Salomon, est parfois le Livre des Cantiques. Selon certains érudits, le Cantique des Cantiques serait formé de cinq cantiques. Par contre, la Bible Scofield propose une division du livre en 13 chants. Cependant, la division du livre en cinq chants est généralement acceptée. Le but de ce livre n'est pas de justifier le péché sexuel. Le Cantique des Cantiques est une parabole rédigée sous la forme d'un poème. Le livre est inspiré, mais de nombreuses personnes éprouvent de la difficulté à l'interpréter. Certains pensent même qu'il ne devrait pas faire partie de la Bible. Cependant, le livre a été accepté dans le canon des Saintes Écritures. Ce livre est malheureusement très négligé par les pasteurs et les enseignants. Le lecteur qui le lit pour la première fois peut être embêté par celui-ci. Le chrétien charnel l'interprète mal afin de justifier son péché. En fait, plusieurs personnes qui ne comprennent pas ce livre en font un usage abusif. Pierre trouvait difficile à comprendre certains points de l'apôtre Paul dans ses lettres, et il a dit « C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. » Citation de 2 Pierre chapitre 3, verset 16. Je pense que cela s'applique aussi au Cantique des Cantiques. Le livre montre l'erreur de l'ascétisme et de l'hédonisme. Origène et Jérôme, deux pères de l'Église, rapportent que les Juifs ne permettaient pas aux jeunes garçons de lire ce livre avant l'âge de 13 ans. Ils craignaient que les jeunes n'y voient que du lubrique, du vulgaire, du voluptueux, du sensuel et du sexuel. Nous entendons parfois des personnes condamner la Bible en disant que le Cantique des Cantiques est un livre cochon. Au contraire, ce livre présente un beau portrait de l'amour humain et physique dans les liens du mariage. Ce livre permet de corriger deux hérésies. La première, ceux qui croient à l'ascétisme, c'est-à-dire une discipline de vie pratiquée en vue d'un perfectionnement spirituel. Ils sont même prêts à condamner le mariage. La deuxième, ceux qui font la promotion de l'hédonisme et qui pensent que donner satisfaction à leur convoitise charnelle est très important. Le Cantique des Cantiques montre clairement que ces deux philosophies sont erronées. Il présente l'amour dans le mariage comme une expérience glorieuse. Ce livre trace un portrait glorieux de notre relation avec le Seigneur Jésus et il le fait avec un langage recherché, coloré, saisissant et puissant. Ce livre peut vous rapprocher du Seigneur Jésus comme aucun autre et il nous touche personnellement. Si l'on compare le Cantique des Cantiques à d'autres œuvres poétiques de l'époque de Salomon, des œuvres perses par exemple, c'est une œuvre modérée au langage mesuré. Certains poèmes perses de cette époque sont considérés pornographiques. Par contre, les Juifs appelaient le Cantique des Cantiques le lieu très saint des Écritures. C'est pour cela qu'on ne permettait pas à tous de lire. En lisant ce livre, nous entrons dans les lieux secrets du Très-Haut. C'est pour cette raison que J. Vernon McGee, le prédicateur dont nous adaptons les textes, a hésité à en discuter sur les ondes. Il savait que les non-croyants et les chrétiens charnels interpréteraient ce livre d'une mauvaise façon. Cependant, si vous marchez avec le Seigneur Jésus et que vous l'aimez, alors, vous apprécierez ce petit livre qui fera du bien à votre âme. Le Cantique des Cantiques est un livre poétique et pratique. Dieu parle à son peuple au moyen d'un poème qui raconte une histoire. Lorsque nous lisons ce livre, nous pénétrons dans un lieu saint. Il nous faut donc enlever nos chaussures spirituelles, tout comme la coutume orientale veut que nous enlevions nos chaussures lorsque nous pénétrons dans un lieu de prière et d'adoration. Ce cantique est une fleur fragile que nous devons manipuler avec délicatesse. Le Cantique des Cantiques nous enseigne quatre grandes vérités. Je vous les présente. Premièrement, le Cantique des Cantiques glorifie l'amour dans le mariage. Le mariage est une relation sacrée et il a été institué par Dieu. Ce livre démontre ce qu'est le véritable amour. Les Juifs enseignaient qu'il révélait le cœur d'un mari comblé et d'une épouse dévouée. Il y a quelques décennies, nous avons vu apparaître un mouvement en faveur de la liberté sexuelle et de nombreuses personnes croyaient que cela serait bon. Cependant, de nombreux individus sont aujourd'hui esclaves de la pornographie et du péché sexuel. Un chrétien qui fait de la relation d'aide avec ces gens m'a dit « Ceux qui sont dépendants du porno et du péché sexuel en ont honte. Ils en sont malheureux et de nombreux mariages sont ruinés à cause de cette dépendance. » Certains perdent leur emploi car ils regardent du porno sur leur ordinateur pendant les heures de travail et leur productivité baisse au point d'attirer l'attention de leur patron. Ils ne sont pas valorisés par cet esclavage, mais au contraire, ils se haïssent et se méprisent. Un dépendant du péché sexuel sait qu'il n'y trouve pas le contentement de son âme, car chaque expérience le laisse toujours sur sa soif spirituelle. Notre jeunesse est orientée vers l'aspect sexuel, mais elle n'en connaît pas tant que cela sur ce sujet. Certains n'en connaissent pas plus qu'un animal. Notre génération en sait beaucoup au sujet des relations sexuelles, mais très peu au sujet du véritable amour. Les gens connaissent le concept hollywoodien de l'amour et ils pensent tout savoir à ce sujet. Les artistes, qui se marient et divorcent à plusieurs reprises, ne savent pas ce qu'est le véritable amour et ils sont incapables de le cultiver. Plusieurs se suicident, car leur âme n'a jamais été comblée. Le contraste entre les idées contemporaines et le concept de l'amour marital du Cantique des Cantiques est frappant. La deuxième grande vérité que nous apprenons dans le livre des Cantiques des Cantiques, ce livre démontre l'amour de Dieu pour Israël. Ce n'est pas une nouvelle pensée que l'on retrouve exclusivement dans ce livre. Les prophètes comparaient Israël à l'épouse de Dieu. Osée développe ce thème. L'idolâtrie en Israël est comparée à de l'adultère, et c'est le péché le plus grave, selon le prophète Osée. Les scribes et les rabbins d'Israël enseignaient ces deux interprétations. L'Église les accepte. Cependant, elle en a ajouté deux autres. Voici la troisième grande vérité à retirer de ce livre. Le Cantique des Cantiques illustre la relation entre Jésus-Christ et son Église. Le Nouveau Testament compare la relation entre le Seigneur Jésus et son Église à la relation idéale entre Marie et sa femme. C'est ce que nous pouvons lire dans Éphésiens chapitre 5 ainsi que dans le livre de l'Apocalypse chapitre 21. Cependant, dans ce livre, Dieu utilise la relation entre un homme et une femme pour nous illustrer son grand amour pour l'Église. C'est ainsi qu'il a choisi de s'adresser à notre intelligence obscurcie, à nos cœurs morts, à nos affections déréglées et à notre volonté désorientée. Il utilise le meilleur exemple d'amour humain pour nous aider à percevoir son amour merveilleux pour nous. Ce livre peut vous entraîner dans une glorieuse et merveilleuse relation avec le Seigneur Jésus, une relation profonde que vous n'avez jamais connue jusqu'ici. Mes amis, aujourd'hui, nous avons un grand besoin de connaître les Écritures et de développer une relation intime et personnelle avec Jésus-Christ. Je crains que de nombreuses personnes ne sachent pas ce qu'est une véritable relation avec le Seigneur Jésus. Et la quatrième vérité que nous apprenons à travers ce livre illustre ce qu'est une relation personnelle et intime entre Jésus et un chrétien. Il démontre l'amour du Seigneur pour les individus ainsi que la communion entre son âme et le Seigneur Jésus. De nombreux croyants ont connu une telle relation avec leur Sauveur. L'apôtre Paul pouvait dire « Ô Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. » Galates chapitre 2 verset 20. Samuel Rutherford passait des nuits entières dans la prière. Sa femme se réveillait la nuit et constatait que son mari n'était plus près d'elle. Elle se levait et le trouvait en train de prier. Il faisait cela même pendant des nuits froides. Elle prenait un manteau chaud et le jetait sur ses épaules. Des hommes tels que Dwight L. Moody et Robert McChaney ont connu du très haut degré d'intimité avec le Seigneur Jésus. Ils avaient une véritable relation personnelle avec lui. Ce n'est pas une deuxième expérience comme certaines personnes le pensent. C'est beaucoup plus qu'une relation. C'est une relation personnelle et intime avec Jésus-Christ dans lequel nous percevons combien merveilleux et glorieux il est. Nous devons en arriver au point où nous affirmons que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ouvrir notre Bible au Cantique des Cantiques équivaut à briser un vase d'albâtre comme l'a fait Marie pour verser le parfum qu'il contenait sur la tête de Jésus et laver ses pieds. J'ai confiance que l'odeur agréable du parfum remplira nos vies et en attirera d'autres à Jésus-Christ. la vie chrétienne, c'est une relation intime avec Dieu. Les gens se leurrent aujourd'hui s'ils pensent que la vie chrétienne équivaut à suivre une feuille d'instruction pour monter un jouet ou un meuble que l'on a acheté en pièces détachées. Tu dois placer la pièce B sur un bout de la base A et la pièce C à l'autre extrémité de la base. Une fois que c'est fait, tu places la pièce F sur A et C. Certaines personnes pensent que la vie chrétienne fonctionne ainsi. Ils croient que la recette pour réussir sa vie chrétienne consiste à prendre un mélange de psychologie et ajouter un soupçon de bon sens et une pleine tasse de baratin religieux et couvrir le tout d'un crémage de versets bibliques. Non, mes amis. Ce qu'il nous faut, c'est une relation personnelle et intime avec le Seigneur Jésus. Nous avons besoin d'un cœur qui brûle pour lui. Le Seigneur n'apprécie pas l'état tiède des soi-disant chrétiens consacrés que l'on retrouve dans nos églises. Trop de chrétiens que l'on considère consacrés sont en fait aussi froids qu'un concombre qui sort du réfrigérateur. Plusieurs ont même des attitudes hostiles et arrogantes. Ce que nous avons besoin, c'est d'une passion brûlante pour la personne du Seigneur Jésus. Le Cantique des Cantiques s'adresse aux croyants et non à ceux qui ne connaissent pas Jésus comme sauveur personnel. Il est destiné aux personnes qui ont une relation personnelle intime avec le Seigneur Jésus-Christ. Cette fois-ci, je ne vous donnerai pas un plan du livre, car il présente des scènes d'une histoire, mais pas nécessairement en ordre chronologique. Un personnage parle et un autre lui répond. Plusieurs personnages entrent en scène. La jeune épouse, Sulamite. Les filles de Jérusalem, le marié qui est Salomon, la famille de la Sulamite. La famille comprend le père décédé, la mère et deux filles et au moins deux fils. Au 19e siècle, des écoles de théologie libérale allemandes ont proposé une interprétation du Cantique des Cantiques. C'est à partir de ces écoles que le libéralisme a imprégné les églises. En fait, cette théologie masque de l'incrédulité. Elle évalue tout selon des raisonnements humains et non à la lumière de la révélation divine. Les théologiens de cette école ont proposé que la Sulamite avait été enlevée par Salomon. Au début, elle ne voulait pas être son épouse, et ensuite, elle a accepté de le devenir. L'enfant de Dieu qui voit dans ce livre la merveilleuse relation entre le Seigneur Jésus et son Église trouve cette interprétation répugnante. Le Cantique des Cantiques était le livre préféré d'hommes tels que Rutherford, McCheney et Moody. Il ne pouvait pas accepter l'interprétation d'un enlèvement. M. Ironside a aussi rejeté cette interprétation. Il a prié, il a demandé à Dieu de l'éclairer. La majeure partie de ce que nous vous présenterons dans ces émissions est tirée de l'interprétation adoptée par Ironside. L'action se déroule dans le palais de Jérusalem et certaines scènes sont des retours en arrière. Ce texte nous fait penser aux pièces de théâtre grecques où une chorale dialogue avec les principaux acteurs. Les filles de Jérusalem maintiennent le rythme de déroulement de l'action. Ce sont des dialogues destinés à être chantés. De belles scènes à Jérusalem illustrent un aspect de l'Église. La Sulamite dit « Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont faite gardienne des vignes. Ma vigne, à moi, je ne l'ai pas gardée. » Cantique, chapitre 1, verset 6. La fille aînée de cette famille, Sulamite, est une cendrillon en quelque sorte. Elle a dû garder les vignes. Le soleil lui a donné un teint bronzé. Il semble que sa famille vivait dans les collines d'Éphraïm et qu'elle louait une terre pour la cultiver. Dans le dernier chapitre du livre, Salomon décrit comment ça se passait. Salomon avait une vigne à Baal-Hamon. Il remit la vigne à des gardiens. Chacun apportait pour son fruit 1000 cycles d'argent. Cantique chapitre 8, verset 11. Je pense que c'est dans ce contexte que se déroule la première scène du livre. La fille est bronzée et se sent honteuse. À cette époque, un teint bronzé signifiait que tu étais une femme qui travaillait fort. Les femmes de la cour cherchaient à garder leur peau aussi belle que possible. De nos jours, les femmes aiment se faire bronzer. Le soleil des plages ne suffit plus. On ouvre donc des salons de bronzage pour l'hiver. Le bronzage a pris une baisse de popularité depuis que l'on a découvert que les rayons ultraviolets peuvent causer un cancer de la peau. Cependant, se faire bronzer est toujours populaire. Avoir la peau trop blanche n'est pas très bien vu, surtout l'été. Non seulement est-ce que cette fille était bronzée, mais elle n'avait pas gardé sa propre vigne. Elle n'avait pu fréquenter les instituts de beauté. Cette fille était naturellement belle, mais elle n'avait pas pu mettre sa beauté en valeur, ni se pomponner. Elle était une fille d'extérieur et une travailleuse. Il semble que ses frères lui faisaient aussi garder les troupeaux. Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, sors les traces des brebis et fais paître tes chevreaux près des demeures des bergers. Cantique chapitre 1, verset 8. Elle travaillait dans le vignoble et elle veillait sur les troupeaux. Elle travaillait près d'une route de caravanes. Lorsqu'elle levait les yeux, elle devait apercevoir les caravanes qui voyageaient entre Jérusalem et Damas. Le texte nous décrit sa réaction. « Qui est celle qui monte du désert, comme des colonnes de fumée, au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens et de tous les aromates des marchands ?» Cantique chapitre 3, verset 6. Elle voyait les caravanes des marchands ainsi que les caravanes des belles femmes de la cour. Ces femmes n'étaient pas bronzées, et un baldaquin les protégeait du soleil alors qu'elles voyageaient sur un chameau ou un éléphant. La Sulamite remarquait leurs bijoux et leurs vêtements de satin. Elle devait rêver d'en avoir un jour. Le vent envoyait l'odeur des parfums dans sa direction. Nous verrons comment tout ceci est une belle image de la naissance et de la mort du Seigneur Jésus. À sa naissance, les mages lui ont apporté de la myrrhe, et à sa mort, les femmes achetèrent de la myrrhe pour embaumer. Cette scène illustre de belles vérités spirituelles, des vérités qui nous feront aimer le Seigneur Jésus. Un jour, alors que la jeune fille gardait les troupeaux, un berger, qui était un bel homme, arriva. Il est tombé amoureux de la Sulamite. Je ne peux pas attendre pour vous dire que nous sommes devant une image du Seigneur Jésus-Christ et de son Église. Le berger dit à la jeune fille, « Comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. » Cantique chapitre 2, verset 2. Plus loin, il dit, « Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes, derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres, suspendus au flanc de la montagne de Galaad. » Cantique chapitre 4, verset 1. Le texte utilise du langage poétique. Il trace un portrait de l'amour de Jésus pour son Église. Il a tant aimé l'Église qu'il a donné sa vie en rançon pour la sauver. C'est ce que nous lisons dans la lettre de Paul aux Éphésiens chapitre 5, verset 25 et suivant. « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Nous reprendrons ce récit à la prochaine émission. Invitez vos amis à écouter cette émission et découvrez l'amour du Seigneur Jésus à travers cette belle histoire. Je vous invite à prendre un peu de temps pour débuter la lecture de ce livre. Chers amis, préparez-vous en lisant le Cantique des Cantiques, alors que la prochaine émission sera la suite de cette introduction. Lisez, méditez la parole de Dieu pour votre vie.
Merci beaucoup, Régent. Tu as dit que le Cantique des Cantiques illustrait l'amour de Jésus envers son Église. Tu as dit aussi qu'il illustrait une relation personnelle entre Jésus et un croyant. Quelle joie pour moi de t'entendre dire ça. Mes amis, avant de connaître le Seigneur Jésus, j'étais auteur-compositeur et je composais toutes sortes de chansons. Des chansons fantaisistes avec une touche de rock and roll et bien sûr des chansons d'amour. Dans cette période qui allait de 1967 à 1977, je gagnais ma vie dans la chanson. J'avais beaucoup de plaisir sur scène. Mais dès que je rentrais seule chez moi, je faisais face à la réalité que je n'avais pas encore réellement trouvé le grand amour. Je vous ai déjà raconté que j'avais fait beaucoup d'erreurs dans ma recherche pour cet amour. J'ai aimé des hommes mariés. J'ai vécu bien des tourments à travers des relations illicites. Mais un jour, j'ai enfin trouvé le grand amour. Là où je n'aurais jamais imaginé qu'il existait. Et cet amour, c'est l'amour de Dieu. Je cite souvent ce verset qui décrit si bien l'amour de Dieu. C'est dans le 3e chapitre de l'Évangile de Jean, au verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Quand j'ai découvert cet amour, quand j'ai réalisé que je n'avais qu'à croire au Seigneur Jésus et à son œuvre rédemptrice à la croix pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle, eh bien j'ai dit « Seigneur, sauve-moi !» Et il l'a fait. Je me suis repenti, bien sûr, sachant qu'il avait pris ma condamnation sur lui-même, à la croix. Mes amis, Jésus m'a non seulement sauvé et donné la vie éternelle, mais il me donne une vie extraordinaire, même sur cette terre. Après sa résurrection, juste avant de remonter au ciel, il a dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Cette parole s'adressait aux croyants qui l'avaient reçu comme sauveur, comme Seigneur. Et maintenant, bien, je compose toujours des chansons d'amour, mais elles s'adressent à Jésus, mon sauveur merveilleux qui m'a aimé le premier. Et j'aime lui dire que je l'aime en retour. Dans un de mes chants, je lui dis ceci. « De tout mon cœur, je viens me prosterner devant toi, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer et t'exprimer ma reconnaissance, doux Jésus. Et je t'aime, car tu m'as aimé le premier. » Et dans un autre chant, je lui dis ceci. « Je réalise que je suis l'objet de ton amour, que tu m'aimes éperdument, passionnément, doux Jésus, et je t'aime tendrement, doux Jésus. » Mon ami, as-tu reçu cet amour qui vient de Jésus? Tu peux le recevoir maintenant, si tu le veux. Reconnais que tu es un pécheur perdu. Repens-toi. Change de direction à l'égard du péché et demande à Jésus de te sauver. Demande-lui de te donner la vie éternelle. Cette vie éternelle qu'on ne mérite pas. Il n'y a aucun d'entre nous qui le mérite. On est tous des pécheurs, comme le dit l'apôtre Paul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et maintenant, tu peux être une créature qui aime et qui sert à la gloire de Dieu. Tu peux devenir un enfant de Dieu. Reçois Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur aujourd'hui.
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Réjean?
Ben, qui es-tu, Caro?
Eh bien, je vais commencer par qui j'étais. J'étais une jeune femme qui chantait toutes sortes de chansons populaires. J'avais des succès au palmarès et ma carrière menait bon train. J'étais malheureuse, j'étais sans Dieu dans le monde. Et un jour, Dieu s'est fait connaître à moi. Et j'ai accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur. Et je suis devenue une enfant de Dieu. Je suis née de nouveau. Et maintenant, je suis une chrétienne évangélique qui aime propager l'Évangile de Dieu. Avec toi, Réjean, je passe partout au Québec pour annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. À tous les gens qui veulent nous entendre, à tous ceux qui veulent s'intéresser à ce que Dieu veut pour eux, à connaître son amour pour eux. Alors, je vais avec toi, on va partout dans des déjeuners de l'espoir. Et ici, à Radio Espoir, pour dire aux gens, Dieu vous aime et Dieu veut vous instruire, vous faire connaître sa sainte parole. C'est merveilleux.
Les gens aimeraient peut-être nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel.
www.radioespoir.ca ou l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.